J'ai une question dont plusieurs seront bien surpris de la réponse de Dieu. Est-ce que certaines personnes méritent d'aller au ciel? La parole de Dieu va nous donner une réponse très étonnante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, si vous n'êtes pas certain d'aller au ciel le jour où vous allez mourir, écoutez bien les questions d'aujourd'hui et surtout les réponses qui vont suivre. Voici les questions. La Bible démontre-t-elle que certaines personnes viennent à Jésus par intérêt personnel? Est-ce que Jésus communique avec nous de manière à se faire comprendre? Pouvons-nous gagner notre ciel? Pouvons-nous le mériter? Devons-nous venir à Jésus pour avoir la vie éternelle? À qui s'applique le terme « prédestination » Est-ce que ceux qui refusent de venir à Jésus en seront rendus responsables un jour? Est-ce que ceux qui entendent la parole de Dieu viennent tous au Seigneur Jésus? Quel message Jésus voulait-il nous communiquer quand il nous a dit de manger le pain du ciel? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé les réponses à toutes nos questions dans les Saintes Écritures et il est prêt à nous donner ce très bon enseignement. Mais premièrement, prions. Merci pour ta parole, Seigneur. On en a besoin. On veut que tu viennes nourrir nos âmes avec ce pain du ciel, ce pain qui est ta parole. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Jésus a nourri une foule de 5000 hommes et que celle-ci voulait le faire roi après ce miracle. Elle ne voulait pas le faire roi parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il l'avait nourri. Jésus a dû s'éloigner de la foule. Il s'est isolé sur une montagne afin de prier après avoir renvoyé ses disciples de l'autre côté de la mer de Galilée. Une tempête s'éleva et les disciples crurent qu'ils allaient périr, mais ils ont vu Jésus s'approcher d'eux en marchant sur l'eau. Lorsque Jésus monta dans la barque, ils se retrouvèrent immédiatement de l'autre côté de la mer. Avec Jésus à bord de la barque, il est plus facile de vivre dans ce monde troublé de tempêtes et soumis aux vagues houleuses. Maintenant, chers amis, nous voyons que la foule cherche Jésus et qu'elle est désappointée. Elle s'aperçoit que Jésus et les disciples sont partis. Débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 22 à 24. La foule, qui était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ces gens étaient venus de la région sud de la mer de Galilée, et ils les avaient nourris là. Ensuite, ils sont venus par bateau à Capernaum. C'est ce qui semble s'être produit selon ces versets. C'est la première fois que l'apôtre Jean utilise le titre « Seigneur », après que le Seigneur eut rendu grâce, nous dit le texte. Nous avons déjà remarqué que Jean utilise habituellement le nom Jésus, parce qu'il est la parole faite chair. Qui est cette parole? C'est Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1er, verset 21. La foule désirait savoir comment il avait réussi à s'éloigner d'elle. Versets 25 et 26. Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Cherchons-nous Jésus par amour ou par intérêt personnel? Jésus ne répond pas directement à leurs questions. Il met plutôt le doigt sur la véritable raison pour laquelle il le cherche. C'est la nourriture qui intéressait véritablement cette foule. Et vous, pourquoi cherchez-vous Jésus? Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Laissez-moi répéter cela en d'autres mots. Je ne vous donne pas une traduction du texte, mais j'essaie d'en faire ressortir le sens. Cessez de travailler pour de la nourriture qui moisit et pourrit. Travaillez plutôt pour la nourriture qui vous procure la vie éternelle. Jésus vous donne cette nourriture, car Dieu l'a désignée pour cela. Jésus communique à notre niveau. Remarquez que Jésus emploie la même approche qu'avec la femme samaritaine au puits. Elle désirait de l'eau, et cette foule désirait du pain. L'eau et le pain sont deux substances essentielles à la vie. L'eau et la nourriture. Jésus est à la fois le pain et l'eau. Remarquez que Jésus emploie des symboles très courants. Il est la parole, et la parole s'est faite chair. Comment expliquer cela? Jésus, la parole, est venu vers nous et communique à un niveau que nous comprenons. Il a affirmé être l'eau, et nous donner l'eau de vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il a affirmé être le pain. Nous savons très bien ce que sont l'eau et le pain. Verset 28. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Le peuple demande ce qu'il doit faire pour être sauvé. Les hommes ont toujours cru qu'ils pouvaient gagner leur salut en travaillant pour l'avoir ou en faisant des œuvres. Les hommes pensent qu'ils peuvent mériter leur salut. Ils pensent qu'ils ont les compétences pour le faire et que Dieu devra accepter leurs œuvres. Cependant, remarquez ce qu'est l'œuvre de Dieu. Verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Dieu nous invite au banquet qu'il a préparé. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas qu'il commande de faire, mais ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait, et non ce que nous faisons ou pourrions faire. C'est l'œuvre de Dieu et non celle des hommes. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il affirme que c'est Dieu qui pourvoit la nourriture spirituelle, et nous devons accepter ce qu'il nous donne. Dieu nous invite au banquet qu'il a préparé. Nous pouvons aller dans les rues et les places publiques et annoncer à tous qu'ils sont invités au banquet de Dieu. Le repas est gratuit et c'est une nourriture spirituelle. Verset 30. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu ?» Ceci révèle l'endurcissement du cœur humain. Jésus a nourri cette foule miraculeusement, et maintenant il demande un miracle pour croire en lui. En fait, cette foule ne voulait pas croire en lui. Il ramène la conversation au pain et au beurre sur la table. Versets 31 à 33. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le monde pense toujours à la nourriture terrestre. Il dit, « Moïse nous a donné la manne. » En fait, ce n'est pas Moïse qui leur avait donné la manne, mais Dieu. Et ce ne fut pas un événement isolé. Dieu les a nourris tous les jours pendant 40 ans. La foule veut être nourrie, et c'est ce qu'elle recherche. La manne leur avait donné la vie autrefois, et c'était un cadeau de Dieu. La manne leur a donné la vie physique dans le désert. Mais le Seigneur Jésus propose de nous donner une vie spirituelle. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Poursuivons notre lecture. Verset 34. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Ils font comme la Samaritaine au puits, qui avait demandé de l'eau, mais qui pensait à l'eau naturelle, puisqu'elle désirait ne plus avoir à puiser au puits pour en obtenir. Le Seigneur a dû faire quelques efforts pour l'amener à penser en termes spirituels. Il faut aussi un certain temps à Jésus afin que cette foule oublie la table à dîner pour penser à une nourriture spirituelle qui donne la vie éternelle. Verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus ramène ensemble l'eau et le pain. Jésus-Christ est la manne venue du ciel. Il est celui qui est venu du ciel et qui a donné sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est cela le salut. Nous verrons qu'il est aussi le pain dont nous devons nous nourrir constamment afin de grandir spirituellement. Après tout, la manne était une nourriture miraculeuse, et elle était palpitante. Lorsque les enfants d'Israël ont pénétré dans la terre promise, ils se sont nourris du blé du pays qui était un symbole de la parole de Dieu. Croyez-moi, bien des gens détestent le blé du pays. Versets 36 et 37. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ce verset revêt une grande importance. En fait, il est le sujet d'une discussion chaude entre les théologiens, une discussion au sujet de l'élection et du libre arbitre de l'homme. Par libre arbitre, nous entendons par là la capacité de l'homme à faire ses propres choix. Certaines personnes mettent tous leurs œufs dans le panier de l'élection. D'autres mettent tous leurs œufs dans le panier du libre arbitre. Je ne concilierai pas ces deux positions car j'ai découvert que j'en suis incapable. Souvent, lorsqu'un jeune homme entre à l'école biblique ou lorsqu'il reçoit son diplôme après quelques années d'études, il pense avoir toutes les réponses à ces questions difficiles. Il pense pouvoir concilier élection et libre arbitre. Et il trouve son explication merveilleuse. Plus tard, il se rend compte que la question est beaucoup plus complexe qu'il ne le pensait. Nous retrouvons à la fois l'élection et le libre arbitre dans ce verset, le 37e verset du 6e chapitre de l'Évangile de Jean. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et non, c'est la vérité que l'on appelle l'élection. Mais il y a aussi la proposition « et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Elle est vraie et énonce le libre arbitre. Je ne sais pas comment concilier ces deux propositions, mais elles sont vraies. Le Père donne des hommes au Fils, mais ceux-ci doivent venir à lui. Vous et moi sommes sur terre, et nous ne percevons pas comment les choses se déroulent au ciel. Je ne sais pas comment Dieu fait l'élection, mais il a créé l'homme avec un libre arbitre, et celui-ci doit l'exercer. Parce que Charles Spurgeon, un célèbre prédicateur du 19e siècle, prêchait l'Évangile en utilisant l'expression « quiconque croit », quelqu'un lui dit « Si je croyais à l'élection comme tu y crois, je ne prêcherais pas ainsi ». Spurgeon lui répondit quelque chose à cet effet. « Si le Seigneur avait identifié les élus d'une marque sur leur corps, j'irais dans les rues, et je regarderais qui porte la marque. je prêcherai l'Évangile strictement à ces personnes. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur a agi. En fait, il m'a demandé de prêcher à tous sans exception. Jésus dit, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Mes amis, vous pouvez défendre l'élection à y perdre votre souffle. Cependant, vous pouvez venir à Dieu, et si vous le faites, il vous accueillera. Quelqu'un peut demander, « Si je ne suis pas élu, je peux tout de même venir à Christ. » Mon ami, si tu viens à Christ, tu seras un élu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que fais-tu de l'invitation que Dieu t'offre présentement? Verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Nous devons venir à Jésus. Dieu veut que vous veniez à lui. Jésus est descendu du ciel afin d'être élevé sur la croix. Il est venu faire la volonté de son Père, et la volonté du Père pour nous est que nous naissions de nouveau, que nous allions vers lui. Voilà l'invitation, chers amis. Allez à Jésus. Versets 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le croyant est assuré de son salut. Le terme « prédestination » ne s'applique qu'aux personnes sauvées. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus, elle est justifiée. Et aussi vrai qu'elle est justifiée, elle sera glorifiée. Si 100 brebis viennent à Jésus, celui-ci lui remettra 100 brebis au Père. Quiconque reçoit le Seigneur Jésus a la vie éternelle et il le ressuscitera au dernier jour. C'est son œuvre. C'est son plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Versets 41 et 42. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus affirme que sa venue sur terre n'est pas naturelle. Il a dû expliquer aux gens qu'il était né d'une vierge. La réaction des Juifs nous indique qu'ils ont compris que Jésus affirmait ne pas être venu au monde d'une façon naturelle. Versets 43 et 44. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous avons de nouveau l'élection divine. Je ne puis l'expliquer. Je sais seulement que vous avez un libre arbitre que vous pouvez exercer. Dieu vous tiendra responsable d'avoir refusé de recevoir son Fils. C'est à vous de décider si vous venez au Seigneur Jésus ou non. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » Si Dieu vous enseigne, vous viendrez au Seigneur Jésus. Beaucoup de versets dans l'Ancien Testament proclament que Dieu enseignera les siens. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » Le prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 13. « Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Ésaïe, chapitre 60, verset 2 et 3. « Ceux que Dieu enseigne viennent au Seigneur Jésus. » mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Malachie, chapitre 4, verset 2. « Si vous entendez la parole de Dieu, et vous y prêtez une attention toute particulière, vous viendrez au Seigneur Jésus. » C'est ce qu'enseignent ces versets. Versets 46 et 47. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Peut-on être plus clair? Cela vient de celui qui a vu le Père. Versets 48 à 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus est venu sur terre. La parole s'est faite chair, nous dit l'évangéliste Jean. Jésus est venu pour donner sa vie en sacrifice à la croix, afin de payer pour mes péchés et vos péchés. Mes amis, si vous mangez de ce pain, c'est-à-dire si vous acceptez Jésus, vous êtes sauvés. Certains diront que cette parole est trop dure, et c'est ce qu'il a été dit à ce moment-là aussi, versets 52 à 54. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs ne pouvaient que donner un sens naturel à ces paroles. En effet, ils n'avaient pas en eux l'amour de Dieu, donc ils ne pouvaient en saisir le sens spirituel. C'est spirituellement que Jésus nous demande de manger sa chair et boire son sang. Lorsque nous recevons Jésus, il vient habiter en nous et, par le fait même, nourrit notre âme. Ceci est encore plus vrai que de manger un morceau de pain naturel. À la prochaine émission, nous verrons le triage que provoqueront ces paroles. Certains ne sont pas disposés à recevoir Jésus dans leur cœur. Ils cherchaient du pain pour nourrir leur corps. Ils cherchaient leurs intérêts, donc ils voulaient un royaume politique. D'autres mettront leur confiance dans le Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Cher ami, ces paroles sont d'une grande importance pour ta vie. De quoi nourris-tu ton âme? Ici, tu es invité par Dieu lui-même à te nourrir de la seule et unique nourriture spirituelle, celle que Dieu t'offre présentement en la personne de son Fils Jésus. Voilà la nourriture qui se révèle du ciel et qui est placée sur une table mise à ta portée. Approche-toi de cette table que Dieu a préparée pour toi. Et nourris-toi de cette parole, de cette vérité, de cette vie que Christ t'offre aujourd'hui même. Profites-en. Chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission, Jean chapitre 6, verset 55 à chapitre 7, verset 6.
Merci, Régent. Oh, mes amis, j'aimerais que tout le Québec ait entendu ce précieux enseignement qui vient de la parole de Dieu. On l'a bien entendu. Oui, on peut être sûr d'aller au ciel un jour. Non, on ne peut pas gagner notre ciel. On ne peut pas le mériter. On a vu aujourd'hui que le peuple demandait à Jésus ce qu'il devait faire pour être sauvé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme nous dit si bien le livre de l'Ecclésiaste au premier chapitre, verset 9. Ce que je veux dire, c'est que les gens du temps de Jésus étaient exactement comme nous aujourd'hui. Les gens pensaient qu'ils pouvaient mériter d'aller au ciel, qu'ils pouvaient le gagner. Et Jésus leur a répondu que l'œuvre de Dieu était de croire en celui qu'il avait envoyé, c'est-à-dire lui-même, Jésus. J'ai bien aimé quand Régent a dit que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce qu'il commande de faire, mais ce qu'il a fait pour nous. Combien de fois depuis le début de nos émissions, on a mentionné ce que Dieu a fait pour nous? Je reviens souvent à l'Évangile de Jean, au 3e chapitre, verset 16, mais c'est ce verset qui, selon moi, exprime le mieux et en peu de mots ce que Dieu a fait pour moi. Si vous avez écouté toutes nos émissions, vous le savez peut-être par cœur comme moi. Récitons-le ensemble et pensons aux mots qui sont tellement simples et à la fois tellement profonds. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit réellement qu'on n'a rien à faire pour aller au ciel. On a juste à croire en Jésus, le Fils unique de Dieu. Dieu le Père nous a donné Jésus, son Fils, et Jésus a donné sa vie. Il s'est laissé crucifier pour payer la dette de nos péchés, une dette qu'on aurait été incapable de payer par nos propres moyens. Ça prenait un sacrifice parfait pour satisfaire la justice de Dieu. Dieu est bon, mais il est juste. Et on ne pourrait jamais être parfaitement juste par nos propres moyens. Alors même si on décidait de mourir sur une croix pour payer pour nos propres péchés, Dieu ne pourrait pas accepter ce sacrifice imparfait. C'est pourquoi Jésus, qui lui n'a jamais péché, a décidé d'aller mourir sur la croix pour nous, à notre place, comme si lui-même était le coupable. Et Dieu a accepté son sacrifice. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en Jésus, de recevoir le cadeau qu'il nous offre, celui de la vie éternelle. C'est entièrement gratuit. Et toi, mon ami, essaies-tu de te sauver par tes propres moyens? Essaies-tu de participer à toutes sortes de bonnes œuvres, des œuvres de bienfaisance pour aider les gens? C'est bien de faire ça, c'est merveilleux. Mais c'est pas comme ça que tu vas obtenir la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu veut te faire présentement. Prends le beau cadeau de la vie éternelle.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.